France Musique.
Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. 13e épisode, en présence de l'ange. Tout commence en 1973 avec la nomination de Rolf Liebermann à la tête de l'Opéra de Paris. Sa mission est claire. Remettre de l'ordre dans cette institution quelque peu ronronnante, lui conférer un rayonnement mondial. Pour cela, fini la troupe permanente, on ne la renouvellera pas. Liebermann veut des distributions internationales prestigieuses. Et puis des mises en scène, des décors et des chorégraphies qui jettent sur les ouvrages un regard neuf, moderne. Bref, un regard de leur temps. On verra donc des spectacles signés Strehler, Lavelli, Chéreau, Lozé, Caroline Carlson. Il veut le meilleur en tout et il est déjà fort de son expérience à Hambourg. Mais Rolf Liebermann, lui-même compositeur, ne veut pas s'arrêter là. On ne peut pas prendre la direction de l'Opéra de Paris sans apporter sa pierre à l'édifice, sans enrichir le répertoire. Autrement dit, il faut susciter une création, commander un nouvel opéra à un compositeur. Ça, ce sera frapper fort. Oh, bien sûr, des événements à l'Opéra de Paris, il y en a eu ces 20 dernières années, et pas des moindres. Les Ânes galantes de Maurice Lehmann, l'arrivée officielle de Carmen, délaissant l'Opéra comique en 1959 pour le Palais Garnier. La damnation de Faust, revue par Maurice Béjart, Wozzeck par Pierre Boulez et Jean-Louis Barrault, ou encore la venue de Maria Callas dans Norma et dans Tosca, et j'en passe. Oui, il y en a eu des événements. Mais en termes de création pure, rien. Depuis 15 ans, quasiment rien, se dit Liebermann. Rien depuis les dialogues des Carmélites de Poulenc en 1957. Et encore, ce n'était pas une création mondiale. Comment est-ce possible? Dans un théâtre qui, jadis, a donné naissance à l'Oiseau de feu de Stravinsky, au Boléro de Ravel, à Padmavati de Roussel, que s'est-il passé? Il faut renouer avec cette audace, créer. Mais à qui demander? S'interroge Liebermann. On peut l'imaginer hésitant. À Boulez, Messiaen, Dutilleux, Landowski, ou pourquoi pas Pierre-Henri, Marius Constant, Antoine Duhamel, Jean Prodomides? Non, pas d'hésitation possible, ce sera Olivier Messiaen. Il a déjà 65 ans, il est le compositeur vivant le plus influent. Il faut à Liebermann une partition maîtresse. Et en plus, Messiaen ne s'est jamais essayé à l'opéra. Rolf Liebermann sait que Messiaen est très difficile à convaincre. Qu'à cela ne tienne, s'il faut faire intervenir les hautes sphères politiques, il le fera. C'est ainsi que Messiaen se retrouve un soir à l'Élysée à dîner en privé avec le président Georges Pompidou. Pompidou est l'homme le meilleur du monde, le plus courtois et le plus cultivé, dit-il sous le charme. À la fin du dîner, l'air de rien, le président s'approche de lui et lui lance « Messiaen, vous ferez bien un opéra pour l'Opéra de Paris, n'est-ce pas ?» Ah, ce Liebermann, comme il a été malin. Messiaen, devant le président Pompidou, hésite, ne dit pas oui tout de suite. Mais il finira par céder. On raconte qu'il aurait glissé au président cette phrase de l'évangile de saint Matthieu « Demandez et vous recevrez ». Autrement dit, « J'accepte, monsieur le président. Vous n'imaginez pas quel grand honneur, etc., etc. » « Né le 10 décembre 1908 en Avignon, Messiaen a débuté seul l'étude du piano et s'est aussitôt passionné pour la musique de Debussy et de Ravel. En 1919, il entre au Conservatoire de Paris, apprend l'orgue avec Marcel Dupré, l'improvisation avec Maurice Emmanuel et l'orchestration avec Paul Dukas, dont il n'oubliera jamais la recommandation « Travailler dans le complexe et non dans le compliqué ». Les prix d'harmonie, de fugue, de contrepoint, d'accompagnement au piano, d'histoire de la musique, de composition se succèdent. Messiaen le surdoué s'intéresse aux modes exotiques, aux rythmes grecs anciens et il devient à 22 ans organiste à l'église de la Trinité de Paris où il restera 61 ans. Il y expérimente les chants d'oiseaux, le plein chant, les modes et les rythmes de l'Inde, bref, tout ce qui l'intéresse et le fascine. Simple soldat durant la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier et compose alors son quatuor pour la fin du temps. 7 ans plus tôt, il a déjà signé l'Ascension, méditation symphonique sur des textes sacrés. En 1944, les 20 regards sur l'enfant Jésus et en 1949, sa Turanga Lila symphonie. Turanga et Lila, deux mots sanscrits dont la traduction pourrait être chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, rythme, vie et mort. Messiaen voyage, enseigne, se produit comme pianiste dans de nombreux pays, notamment en compagnie de son épouse Yvonne Loriot. Ses harmonies, son orchestre réinventent un monde de couleurs inouïes. Et toute sa vie et toutes ses œuvres sont inspirées par une foi catholique profonde. Lorsque Rolf Liebermann prend la tête de l'Opéra de Paris en 1973, Olivier Messiaen est une sommité de la musique française contemporaine et mondiale. À partir de la commande ferme de l'opéra, tout s'arrête dans la vie de Messiaen. Les concerts, les enregistrements, les tournées, les leçons, tout. Cet opéra devient le seul objet de sa vie. D'abord, quel sujet choisir ? La vie du Christ ? Non, on ne peut pas incarner le Christ, encore moins le faire chanter. Alors pourquoi pas son cher saint François d'Assise ? Oui, pourquoi pas ?
J'ai choisi saint François pour deux raisons. D'abord parce que je ne pouvais pas mettre le Christ sur la scène et qu'il était le seul personnage humain, sans être un dieu, qui ressemblait le plus au Christ parce qu'il était complètement chaste, complètement humble et complètement pauvre. Et en plus parce qu'il avait les 5 clés du Christ. C'était tout de même une ressemblance terrible. Et enfin, je l'ai choisi aussi, j'ose dire, parce que c'était un copain. Il parlait aux oiseaux, comme moi j'aime les oiseaux.
Plus de 8 années vont s'écouler avant que la partition ne soit achevée. Et entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Le président Pompidou est mort, Giscard puis Mitterrand lui ont succédé, et Rolf Liebermann, son commanditaire, a cédé sa place à Massimo Bojanchino à la tête de l'Opéra de Paris. Selon les critères et l'exigence de Messiaen, ces 8 longues années ne seront pas de trop pour mener à son terme cette partition de 2200 pages.
J'ai fait non seulement le texte, mais j'ai fait les projets de décor et les projets de costumes, plus la musique, et bien entendu l'orchestration qui représente un travail considérable. J'ai passé à peu près une demi-année sur le texte, mais j'ai passé 3 ans sur la musique et 3 ans sur l'orchestration et la copie de l'orchestre. J'aurais travaillé 8 ans en tout. Je me suis basé sur les sources les plus pures. D'abord les écrits de Saint-François lui-même, les écrits conventuels, les règles qu'il a écrites pour les franciscains, les prières qu'il a composées, et notamment le fameux cantique de Frère Soleil, le cantique des créatures. Ensuite, je me suis basé sur une chose très connue qui a été écrite environ 50 ans, je crois, après la mort de Saint-François, les Fioretti. Et sur une chose moins connue, mais qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus importante, les considérations sur les stigmates, écrites également par des franciscains à peu près un siècle après la mort de Saint-François, parce qu'on disputait déjà pour savoir si c'était vrai qu'il avait des plaies aux pieds, aux mains et aux côtés. Et alors ils ont écrit qu'ils avaient vu, qu'ils avaient constaté la chose de leurs mains et de leurs yeux, et ils ont écrit ce livre qui s'appelle « Considérations sur les stigmates ». Puis j'y ai ajouté évidemment mes idées personnelles, ma façon de parler, mon amour des oiseaux, mon amour des timbres, enfin toutes les choses qui composent ma musique.
Le point culminant de la partition est la scène du prêche aux oiseaux au 6e tableau. Messiaen le croyant, Messiaen l'ornithologue, s'est gardé le meilleur pour la fin. C'est la musique la plus complexe, la plus audacieuse, la plus folle qu'il ait conçue jusque-là en termes d'invention harmonique et de combinaison de timbres. Xylophone, xylorimba et marimba offrent un premier concert foisonnant de chants d'oiseaux. Puis on découvre la tourterelle, décrite par les flûtes et les clarinettes. Puis le troglodyte, au xylophone, au piccolo et aux flûtes. Le rouge-gorge, où se mêlent crotales et ondes marteneaux. Viendront la passerinette, la fauvette à tête noire, l'alouette des champs, et bientôt l'île de la Nouvelle-Calédonie que Saint-François a vue en rêve. Le tout porté par ses accords colorés propres à Messiaen, lui qui voyait des couleurs en écoutant et en composant. La musique de Saint-François exalte la foi chrétienne du compositeur comme pour nous faire atteindre une forme d'hypnose, de nirvana sonore. Son amour des diaprures orchestrales et des chants d'oiseaux nous entraîne jusqu'à l'ivresse, l'écœurement même, disent ses détracteurs. C'est du plus pur Messiaen, avec ses démesures, ses trouvailles, ses excès, ses tics aussi. Une musique au côté torrentueux qui balaye tout sur son passage et ne vous laisse plus la place pour la réflexion.
Alors j'étais tout à fait à mon affaire, j'étais heureux de pouvoir faire un tableau entièrement consacré aux oiseaux. Mais en plus, comme il y avait des oiseaux des îles, j'ai fait un voyage spécial. Ça fait 29 heures d'avion, j'ai été avec ma femme en Nouvelle-Calédonie. C'est un billet extraordinaire, il n'y a pas d'hiver, il s'est printemps toute l'année. Et les couleurs sont miraculeuses, les pigeons sont verts. Mais vraiment verts, comme ça, un vert émeraude, merveilleux. Les feuilles des arbres sont rouges, un rouge flamboyant. Les arbres s'appellent d'ailleurs des flamboyants. Les troncs des niaoulis, sont des arbres de là-bas, sont blancs. Et enfin, la mer est merveilleuse, elle est violette avec des reflets verts et bleus, c'est absolument sublime. Et il y a des oiseaux là-bas qu'on ne trouve nulle part ailleurs, je vous les ai cités, Eupsaltria, Philémon, et spécialement Gérigonée. Elle chante avec une virtuosité incroyable, elle fait du staccato comme un piccolo d'orchestre ou comme un xylophone. Je l'ai d'ailleurs confié au xylophone et au piccolo dans l'orchestre. Et alors, elle est le thème de l'ange. Chaque fois que l'ange entre en scène, avant qu'il n'arrive, on entend la fauvette Gérigonée. Alors, dès qu'on entend ce petit thème, on se dit, ça y est, il va être là. Par contre, Saint-François avait comme ami un faucon cresserelle qui vivait avec lui, qui était très gentil. Les faucons passent pour des oiseaux rapaces et féroces, pas du tout, il était très gentil. Il était gentil à tel point que quand Saint-François, épuisé par les jeûnes et par les prières, s'était enfin endormi, l'oiseau qui avait pour mission de le réveiller à l'heure de l'aube n'osait pas le réveiller. Et il le laissait dormir gentil. Et enfin, Saint-François a avec lui toujours la fauvette à tête noire. Ça, c'est l'oiseau typique de l'Ombrie. Et c'est un oiseau qu'on entend aux Carceri, là où il a vécu. Dès qu'on arrive dans les Carceri, la première chose qu'on entend, c'est la fauvette à tête noire. Elle est là, elle chante à l'entrée. Et tout de suite avant le grand chêne vert où il a fait son prêche, elle est là.
Est-ce un opéra ? Non, pas vraiment. C'est même l'inverse d'un opéra. Un oratorio ? Non plus. Non, Saint-François d'Assise s'apparente plutôt à un drame liturgique. Un genre qui n'est pas du tout dans les habitudes de l'opéra de Paris. Un genre qui s'oppose même à 3 siècles de tradition, d'air, de duo, d'ensemble, d'ouverture et d'intrigue rebattue. Un peu, si on veut, comme Parsifal, où Richard Wagner, 1 siècle plus tôt, rompait avec tous les usages dramatiques en vigueur en le dénommant « Festival scénique sacré ». Messiaen a baptisé son ouvrage « Scène franciscaine en 3 actes et 8 tableaux ». Et c'est le spectacle lyrique le plus atypique qui soit. 4 heures de musique, 9 personnages, dont 7 moines, une seule voix féminine, et encore celle d'un ange. Musicalement, il faut enfin caser et diriger 150 choristes et 120 musiciens. Quel orchestre plantureux ! En 1983, pour le spectacle, comme la fosse d'orchestre du Palais Garnier est trop petite, on a placé des musiciens dans les loges d'avant-scène et sur 2 immenses estrades latérales qui empiètent sur la salle. Le seul thème de l'ange, par exemple, est donné par 7 flûtes, avec soutien des hautbois et clarinettes, sans parler de la percussion, dont la variété et la richesse lui donnent parfois des sonorités de gamelan balinais. « Il ne s'agissait pas de faire du bruit, » dit Messiaen, « mais d'élargir ma palette de coloris et de combinaisons de timbres. » Quant à l'action, elle est réduite à néant. Le 28 octobre 1983, Seiji Ozawa dirige la première, avec dans les rôles principaux José Van Damme et Christiane Hédapierre.
Thank you.
Saint François, ce religieux qui a vécu au XIIIe siècle en Italie, Messiaen en fait son contemporain, son frère, son guide. Et le nôtre aussi. On entre ou on n'entre pas dans Saint François d'Assise, mais qu'on le veuille ou non, sa nature, sa difformité, son impact, sa beauté surnaturelle, sa puissance hors norme en font un ovni lyrique. La critique musicale parisienne, un peu sceptique devant la musique et les longueurs de l'œuvre, s'en prend tout particulièrement à la mise en scène très premier degré de Sandro Sequi. Quel clou au pilori ! Aurait-il trop respecté les indications du compositeur ? Monseigneur Lustiger a apprécié l'opéra, mais le public, cette messe du temps présent semble souffrir des pesanteurs de la grâce. Et voilà ce qu'écrit Hector Bianciotti dans le Nouvel Observateur du 2 décembre 1983. A-t-il eu raison, Rolf Liebermann, d'avoir communiqué au vieux maître la volonté de s'attaquer à un genre qui lui avait jusque-là inspiré une sainte prudence ? Et Messiaen, quant à lui, a-t-il eu raison de réduire les péripéties scéniques de ce monumental ouvrage à quelques passes entre deux personnages hautement invisibles, l'âme et la grâce, et à quelques frêles anecdotes tirées surtout des Fioretti, ces petites fleurs glanées dans la vie de Saint François d'Assise ? Messiaen a tout écrit sur la partition, de la mise en scène au décor en passant par les costumes. Le résultat est désastreux. Le spectacle est un vrai Capharnaüm, une sorte de musée bombardé où, sur un ciel à la Turner et à l'intérieur d'une grande caisse marbrée qui occupe toute la scène, jouent des architectures, des toiles peintes, des rideaux transparents, sans compter les projections consternantes de vols d'oiseaux multicolores, de croix tremblotantes qui achoppent contre les éléments du décor où elles se couchent et se tordent. Et tout cela pour aboutir, dans la scène des stigmates, à 5 petites ampoules toutes rondes et toutes familières, mais ce sont des rayons laser, s'allumant sur le corps de François, on dirait une vision de flipper. Les interprètes, eux, se sont surpassés. Seiji Ozawa fait de l'algèbre sonore comme s'il faisait l'amour. On a enfin retrouvé Christiane Hédapierre, et peut-être dans un rôle qui la rendra mémorable. Quant à Kenneth Rigel, le Don Ottavio du Don Juan de Lozé, on peut continuer à vanter son chant et à passer sous silence son jeu scénique. Enfin, venons-en à José Vandamme. Il suffirait du moment de la mort de François pour savoir qu'il n'est pas seulement cette voix velouteuse et puissante dont on ne sent jamais les passages de registre, mais aussi un acteur habité. En l'occurrence, il se tient impavide, au-dessus des périls de la partition et de l'incohérence d'un spectacle qui ne cesse d'osciller grandement et périlleusement entre la pesanteur et la grâce.
Sache, il retient bien que tout cela n'est pas.
La postérité ? Saint François d'Assise mettra presque 10 ans à s'imposer. On ne compte pas l'exécution en version de concert donnée à Londres pour son anniversaire le 10 décembre 1987 et dont Messiaen ne voulait rien savoir. « C'est un opéra, pas un oratorio », répétait-il. Il ne verra jamais son œuvre remise en scène de son vivant. C'est seulement quelques semaines après sa mort que Gérard Mortier remontera l'ouvrage au Festival de Salzbourg en 1992. Il en confie alors la mise en scène à Peter Sellars. Aux grottes en carton-pâte et aux robes de bure du XIIIe siècle représentées en 83 à Garnier, succèdent ici des néons électriques multicolores et des écrans de télévision où apparaissent une foultitude d'oiseaux. L'ange, lui, est vêtu d'un tailleur crème. Cette vision d'un Saint François à l'heure de la vidéo n'a rien de provoquant. elle pénètre en fait au cœur de l'œuvre, dont elle livre l'émotion, la vérité. C'est un kaléidoscope d'images au pouvoir d'évocation fascinant. Grâce à Peter Sellars, saint François d'Assise a enfin trouvé le messager qui saura l'imposer au monde entier, en dépit des résistances de la veuve du compositeur qui s'opposera à la reprise de ce spectacle. On pourra, malgré cela, l'admirer en 1992 à l'Opéra Bastille. Ainsi, la carrière de saint François s'envolera. On le fêtera à Leipzig, Édimbourg, Berlin, Munich, Amsterdam, Madrid, Montréal, San Francisco. Tout avait commencé au Palais Garnier, le 29 novembre 1983, grâce à Rolf Liebermann.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Pour tutoyer les anges, quelques pages de Messiaen et d'autres surprises.
Thank you.
avons écouté des pages de Messiaen, de Bach et d'Hildegard von Bingen. Toutes les références sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était l'Opéra de Paris, toute une histoire, émission préparée par Marion Guillemet, prise de son et mixage Benjamin Vignal, réalisation Claire Lagarde. Demain, 14e épisode, moi, Delphine, j'y arriverai.
France Musique, c'est l'été. À réécouter sur francemusique.fr.